Salut, bonsoir auditeurs, auditrices, bienvenue et salut, salut. On commence avec un groupe qui s'appelle Navasté pour faire l'introduction de l'émission habituelle hebdomadaire du jeudi soir de 19h30 à 21h, Feu de tout bois. C'était un groupe afghan, peut-être en tout cas c'est un morceau afghan, un traditionnel afghan accompagné par des tablas. Et puis là j'ai la pochette du disque, alors je me dis tiens mais d'où sont ces gens là, Sylvain, Fred, Fabien, Grégory, non ben on ne sait pas, ce sont des numéros de téléphone en 06, sinon ils sont chez Gmail et aussi chez MySpace, alors voilà, peut-être qu'ils sont pas loin d'ici, peut-être qu'ils sont à l'autre bout du monde. En tout cas, ils sont à Feu de tout bois ce soir en disque. Ce soir, on parlera de plein de choses, alors de transition en DIY, là, un peu d'un truc qu'on reconnaît un peu sous poser une question, en tout cas à transition en DIY, et aussi de Radio Galère, une radio marseillaise qui fait son festival, d'Alexandre Marius Jacob, d'Animaux, et surtout, on vous passera une heure d'émission enregistrée à Rockin' Gats sur la ZAD de l'aéroport des Landes près de Nantes.
L'organisation spectaculaire de la présente société de classe entraîne des conséquences partout reconnaissables. D'une part, la falsification généralisée des produits, aussi bien que des raisonnements. D'autre part, l'obligation pour tous ceux qui prétendent y trouver leur bonheur tenir toujours à grande distance de ce qu'ils affectent d'aimer, car ils n'ont jamais les moyens, intellectuels ou autres, d'en venir à une connaissance directe et approfondie, une pratique complète et un goût authentique. Ce qui déjà est si apparent quand il s'agit de l'habitat, du vin, de la consommation culturelle ou de la libération des mœurs, doit être naturellement d'autant plus marqué quand il s'agit de la théorie révolutionnaire et du redoutable langage qu'elle tient sur un monde condamné.
C'est plus de l'état qui maintient le peuple en léthargie. Putain, ils peuvent sucer ma bite. La peur est établie, l'espoir nous cloue tapis. Il nous faut tout à pain, tapis. Repenser de quand c'est pour que les patrons capitalistes. J'vois vite à vie ce qui me sert. Antidépresseur, je voudrais oublier mon antisme et blessure. Mais la pression, mon agression gronde. La pression, mon paquet, son chambre. La saison, mon la liaison dans ma raison de bombe. Qui brûle, critique. Si brut, j'paille, brille, je simule. Bah, j'prends les armes qui me restent. Vite merde, j'prends la haine pour qu'enfin un jour on seigneur.
Et tu voulais qu'on fête l'égalité, petite conne, trop naïve, l'honnêteté limitée, les mythos remplis mes rêves de dérive, complices et complots, complète le tableau, ma go pour le haut, mais pour le bas, mes go avec les boulots dodo, et ça se dit là pour t'aider. L'enchic oracle sol, ils voudraient me voir s'aider, persuader, les capac, les mots que j'immole, le bal de leur logique molle, on le blanc d'ogive dans l'horlogie, le rôle de la logique, j'ai par l'halogène, gêne et gêne, fin de rage et jeune, et j'ai rien, jamais en plein jour et c'est chienne, j'aime sur l'amour, mais je suis tellement grillé, enfanté du four, je marche tel qui j'ai pour railler, petite femme, je reste fort, tape dans le tas de bâtards, tac pour les taux au bâton, rap et entame la bataille, les flammes sur les tours de béton, tape dans le tas de bâtards, tac pour les taux au bâton, rap et entame la bataille, les flammes.
Ich schaff's auf eine Institution, was wir verbrennen, es ist Institution, Institution. Fusion, ich will die Fusion nicht.
Ich hasse Bürokraten, Herrscher, Psychopathen, Führer und Soldaten. Rennen wie ein Fließband, keine Macht für niemanden. Zu kämpfen auf ein niemals, der Ball an allen Augen wirkt wie Sand. Spucken eure dreckigen Visagen unter Platte des Strand. Unter Stratten auf dem Bruder, das Leben war von ihr verbannt. Und los auf die Täter, mehr kaufen die Gräber, Mutter, Wiese auf eine Väter. Fett und Weiß fallen sie beten, legen ab den warmes Leben. Seelen sehen, sehen sich nach emotionellen Siegen. Doch keiner will die sehen, alle segeln und regen. Ich komme Säbel zwischen den Zehen.
Derrière leur mur de petits rats comptabilisent les dégâts, relativisent les dégoûts qu'ils dégagent. Mon gars, la mairie, c'est les goûts. Tous s'égarent pour une prime au mérite, ça rend fou, mérite. Qu'ils vendent leur source sans limite, le genre de type qui m'admite. Les lois nous les langues et point. Je crois que c'est dans le coin, comme des tags, mais bien le point du devoir nous maintient. Ta fidélité sur ta laisse à plata. Et nos juges mutants, ça les malsains. Comme vous tapez un taille, on taille des voix de taille. Coupe en couille, accompagné de caille, taille au taillot. J'ai l'arme sous maillot, la critique en kilo. Et des types d'enculés, Sisyphe mama. Crame les cônes, les tabacs coulés, coulés. Les flammes sur les tours de béton, 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 les flammes. Tape dans le tas de bâtards, tac pour les taux au bâton. Rappé en table la bataille, des flammes sur les tours de béton. Tape dans le tas de bâtards, tac pour les taux au bâton.
Ouais, tape dans le tas. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle, c'est le titre de cette publication que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres. C'est une feuille A4 recto verso pour la transition en Diwa. Alors, il s'agit pas de, enfin, il s'agit pas de transit ou je ne sais pas quoi. De transition, qu'est-ce que c'est? Bon, on a entendu parler un petit peu de ces groupes dans différentes villes, à commencer par nos voisins du Trièves à Mince qui s'inquiètent de comment on fera quand il y aura plus de pétrole. Mais on a l'impression que c'est comment on fera pour continuer le capitalisme, et c'est un petit peu ce qui est gênant dans ce groupe transition en transition, dans ces groupes transition quand même qui ont un côté alternatif et comme on est l'alternatif, c'est pour recommencer la même chose. Voilà, collectif d'habitants et d'habitantes se présente ainsi du Diwa qui souhaite créer un lien en faisant connaître et en mettant en relation les initiatives locales de transition. Et voilà, bon, ce qu'est la transition, la transition, mouvement citoyen, citoyenne, etc. Vous pourrez lire les lettres que si vous êtes de Diwa, vous avez dû recevoir aussi dans votre boîte aux lettres il y a à peu près 3 semaines. Ou 2 semaines. Et ce qui m'a intéressé, c'est la nouvelle alors de Association Diwaze pour la transition énergétique, puisque quand même c'est le principal objet de transition, de cette transition énergétique, qui a 2 objets parallèles et complémentaires: promouvoir et mettre en œuvre toute action en faveur de la sortie du nucléaire. Et puis aussi, bien sûr, promouvoir les énergies renouvelables. Et donc, en lien, bon, etc. Alors, ils expliquent un peu leur création. C'est la création, apparemment, de cette association Diwaze pour la transition énergétique. Qui est composé de présidents, de coprésidents animateurs, et donc 3 coprésidents animateurs qui sont l'association. Il y a aussi des membres ou des adhérentes, mais voilà, le conseil d'administration en fait sont 3 coprésidents animateurs, 3, bah, du coup c'est 3 présidents, mais en fait il se trouve qu'il y a 2 femmes, ah oui, et un homme. Bon, du coup, c'est 3 coprésidentes, si on veut, et président, animatrice et animateur. Et aussi 6 animateurs de groupe. Alors, ça se trouve, c'est aussi pareil, c'est des animatrices de groupe, mais bon, on ne saura pas. Par exemple, sortir du nucléaire et des énergies non renouvelables. Alors du coup, voilà, c'est un groupe de recherche. Et c'est ça là que c'est intéressant, puisque déjà, c'est de nous mettre la puce à l'oreille, on parle de... Ça se trouve, moi je parle un peu fort depuis tout à l'heure. Là, je regarde mes voyants. Ok, on va descendre un peu. J'espère que ça vous cornera un peu moins dans les oreilles comme ça. Non, mais ça se trouve, vous ne m'entendez plus du tout là. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit?
Et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui devrait, qui doit en principe, bouleverser les fondements même de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique.
Je gardais un petit peu le meilleur. Le meilleur qui sont les trois dernières lignes. Les trois dernières lignes de cette information. Notre association, donc Association d'Iwaz pour la transition énergétique qui se propose quand même de sortir du nucléaire, même si on sait que bah oui, sortir du nucléaire, ce sera à peu près dans plusieurs millions d'années, puisqu'on est dedans jusqu'au cou, et que allons dire aux enfants qui vivent à Fukushima, aux enfants qui vivent à Tchernobyl, je parle des enfants parce que c'est ceux qui en théorie ont le plus longtemps à vivre, du coup qui pourraient voir une sortie du nucléaire, non, en fait ils en sortiront jamais du nucléaire. Prétendre sortir du nucléaire, non, qu'on soit directement contaminé ou qu'on vive dans un pays ou sur une terre, sur une planète Terre contaminée, on ne sortira pas du nucléaire. On peut arrêter de faire des conneries, ça c'est sûr. Mais alors là, c'est surprenant, notre association ne participera pas à la manifestation du collectif antinucléaire 84 à Avignon du 18 août au 25 août 2012, au regard que ce mouvement préconise un arrêt immédiat du nucléaire, ce que nous jugeons irréaliste. Donc c'est, voilà, point pour l'instant. Il reste une ligne, elle a validé cette association d'Iwaz pour la transition énergétique, donc qui juge que non, on ne peut pas arrêter c'est irréaliste d'arrêter le nucléaire, hein, plus exactement. Elle a validé la proposition d'organiser une chaîne humaine le 25 novembre 2012 à 10, donc on suppose que, encore une fois, cette chaîne humaine ne sera pas là pour arrêter les centrales nucléaires, elle sera là pour, donc si elle n'est pas là pour dire arrêtons le nucléaire, elle est là pour dire quoi? Bah pour dire allez, continuons, mais acceptons-le. Essayons de faire accepter le nucléaire, essayons de faire accepter encore que ça dure un peu, parce qu'en fait ça peut péter. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est irréaliste de vouloir arrêter les centrales nucléaires? C'est qu'on juge que c'est réaliste qu'elles continuent. Alors on peut dire c'est réaliste qu'elle continue pendant 10 ans, pendant 25 ans, pendant 50 ans, pendant 5 ans, mais qu'on juge que c'est réaliste qu'elle continue, ce que j'aimerais alors bien sûr des personnes de bonnes nouvelles sont invitées, Marc qui signe cet article est aussi invité, ou n'importe qui, pour essayer de discuter de ça, de comment c'est réaliste de continuer le nucléaire. Est-ce que un jour avant Fukushima, c'était tout à fait réaliste de continuer. Et pourtant, il y avait des gens au Japon depuis de nombreuses années, hein, depuis Hiroshima et Nagasaki, qui luttent contre le nucléaire civil et militaire. Ces gens-là ne sont pas réalistes, non. Ou c'est peut-être juste qu'ils ont été écrasés par les moyens mis en place au Japon pour faire accepter le nucléaire. Que la même dans notre beau pays démocratique en France, puisque l'association d'Iwaz pour la transition énergétique, c'est vraiment joyeux, quoi, hein, veut promouvoir des choses qui sont soutenables sur le plan social et démocratique. Donc soutenable, ça veut dire qu'on continue la même chose, en fait, hein, on continue la même démocratie que maintenant, dire que bien sûr le nucléaire français a été imposé de façon démocratique. Il y a quand même eu l'armée qui est intervenu plusieurs fois, mais donc c'est une sorte de guerre civile, mais puisque on nous le dit, c'est une guerre civile démocratique. Donc pour eux et elles, pour ces trois coprésidents et présidentes animateurs animatrices et les animateurs animatrices de groupes de recherche, c'est tout à fait réaliste de continuer le nucléaire. Effectivement, oui, pareil, un jour avant Tchernobyl, c'était réaliste de continuer, et les gens qui disaient le contraire étaient taxés d'irréalistes ou quoi? Alors là, on en est où maintenant? Est-ce qu'on juge que c'est réaliste de continuer une minute de plus à faire tourner ces engins de mort? Est-ce qu'on juge que c'est réaliste une minute de plus de continuer d'avoir des armements nucléaires qui sont embarqués dans des sous-marins, qui sont prêts à partir par des missiles ou par des avions à tout moment. On, est-ce qu'on vit dans ce monde et que tout va bien comme ça, ça ne peut pas péter du jour au lendemain? À chaque fois qu'il y a eu un accident nucléaire et à chaque fois qu'il y a des incidents entre guillemets nucléaires, c'est aussi du jour au lendemain, hein, la veille d'un épanchement de radioéléments, eh bien, bien sûr, il n'y en a pas. Et puis après, il y en a. Hein, s'il y a un accident type un gros accident, je dirais, parce que des accidents, il y en a quand même tous les jours sur les centrales françaises, sur les centrales de France et sur les centrales françaises ailleurs qu'en France aussi, et sur toutes les centrales nucléaires, on le sait très bien. En fait, il faut arrêter de croire que c'est réaliste de continuer avec ces centrales nucléaires. Et pareil pour l'association d'Oise pour la transition énergétique et les gars et les gâtes, revenez un peu sur Terre, sur notre planète Terre, là où on est en train de se foutre en l'air, hein, à chaque fois que ça continue. Alors dire que c'est réaliste, que c'est irréaliste d'arrêter, je sais pas. Pour beaucoup de gens, en tout cas, le collectif antinucléaire 84 demande l'arrêt immédiat du nucléaire. C'est-à-dire arrêt, c'est un mot. Plus honnête que sortie, puisque l'arrêt est possible alors que la sortie ne l'est pas, et immédiate, parce que justement c'est ce qui est réaliste quand on vit pas loin d'une centrale, ou quand on vit comme ici a dit. Ce serait beaucoup plus réaliste d'arrêter cette menace, d'arrêter d'avoir peur. N'ayons plus peur du nucléaire et un peu cette peur qui entretient le fait que non, surtout ne l'arrêtons pas, hein, ça fait trop peur. Alors du coup, de deux choses l'une pour moi, alors soit transition en DIY et à la solde, c'est-à-dire payé par le gouvernement, hein, comme on se demande du coup, cette chaîne humaine qui a eu lieu au mois de mars a effectivement été subventionnée par la région Rhône-Alpes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, des emplois aidés. Donc effectivement, c'est ce qui s'appelle être à la solde du gouvernement. Alors ensuite, on peut prendre le fric et puis demander l'arrêt des centrales. On peut aussi prendre le fric et se dire ok, on prend le fric, mais on demande de continuer les centrales. Cette chaîne humaine qui aura lieu à Die le 25 novembre 2012, eh bien c'est pareil, est-ce qu'elle sera à la solde du gouvernement, ou alors est-ce que c'est membres coprésidents, présidentes, animateurs, animatrices, ou simples membres, etc. de l'association d'Oise pour la transition énergétique ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est réaliste et de ce qui ne l'est pas. Finalement, le nucléaire, c'est pas si mal que ça, c'est pas pire. On va le garder encore un peu parce que vraiment, on serait perdu sans. Et bien sûr, peut-être que ça demande un éclaircissement. Est-ce que c'est directement en liaison avec le préfet qui donne des ordres, ou alors est-ce que c'est une erreur de jugement, ou alors est-ce que c'est moi qui me plante et qui croit que effectivement, qui ne me rend pas compte que c'est réaliste de continuer. Hein, c'est vrai que comme je suis anti-nucléaire, a priori, j'ai un peu étudié la question. Je me rends bien compte que t'es pas réaliste de continuer, quoi, faut pas déconner, Voilà. Alors, écoutez, je sais pas si on vous donnera des nouvelles, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas là forcément pour donner des bonnes nouvelles, mais pour donner des nouvelles. Alors, je sais pas si on continuera à vous donner des nouvelles de transition en Dieu. En tout cas, ils et elles sont les bienvenus pour voir un peu tout ça.
Je m'arrache le cœur avec les dents. J'ai cette tendresse déplacée pour mes frayeurs. Quand on me caresse, je saigne. Pour ça qu'ils craignent la meilleure de mes humeurs. Les photos veillent à l'ombre du visible. Ce putain d'organe dans le viseur. Et je passe de l'invincible au risible. Je la serre en misère dans la lisière. Je t'assure, frère, un survaseux. Et c'est toujours bien visère. Ceci n'est pas
une disserte. Parole de galère. Alors, donc, l'avantage de bonnes nouvelles, c'est quand même que ça permet d'annoncer Enfin, ça a permis d'annoncer que le collectif antinucléaire 84 de Avignon faisait des séries de manifestations du 18 au 25 août 2012. Donc Cannes 84, collectif antinucléaire 84, du 18 au 25 août 2012. Alors si vous aussi vous croyez que ce n'est pas possible de continuer le nucléaire, que ce n'est pas possible de continuer d'être aussi lourdement armé et que ce n'est pas possible de continuer de faire tourner ces centrales, donc eh bien, voilà, c'est le Cannes 84 et c'est clair. Samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre, allez, un petit peu d'exodisme, on va à Marseille, à Parole de Galère 2012. Parole de Galère, ça a lieu sur Radio Galère, qui est une radio sœur de Radio Diwa, c'est-à-dire une radio associative. Notre culture, nous-mêmes, prendre des initiatives, se lancer dans des possibles, ce n'est pas bien sorcier. Pour cela, il suffit que quelques personnes viennent avec une proposition, que celle-ci ouvre une porte à d'autres, pour que les idées jaillissent, que la chaîne des connaissances se mette en place, que se construise un projet commun. Le festival Parole de Galère est entre les mains de celles et ceux qui considèrent la culture comme une richesse devant rester en dehors des officines culturelles et des conventions marchandes. Indépendant des autorités politiques, ce projet collectif s'organise comme un laboratoire d'expérimentation sociale, artistique et culturelle et mutualise toutes les compétences pour mettre en place l'événement, sa volonté, celle de regrouper des personnes ou groupes de personnes de toutes origines et milieux engagés pour participer, pour partager un savoir, un combat, une envie ou une passion. Ce sera à Marseille et c'est un festival engagé. Voilà, Radio Galère, c'est une chouette radio avec des chouettes émissions qu'on peut écouter sur internet aussi, bien sûr. Des initiatives et des possibles. Je continue la lecture de la présentation du festival Parole de Galère samedi 1er dimanche 2 septembre 2012. Des initiatives et des possibles. Il y a 3 ans, un petit groupe s'est lancé dans un défi collectif, celui de mettre en place un festival alternatif à prix libre, autonome et participatif. Plus qu'un défi, c'est devenu un engagement, construire un espace aux expressions multiples, création sonore, débat radiophonique, scène de musique, exposition de photos, contes, théâtre, concerts, en faire année après année un lieu de l'expression libre et indépendante. Parole de Galère, pensée comme un projet collectif marseillais, voguant à contre-courant aux côtés de Radio Galère. Ce sont des outils indispensables pour porter la voix des galériens et galériennes, celle des luttes des alternatives et de la solidarité. Les 1er de septembre 2012, le festival Parole de Galère lance sa 3e édition à proximité des studios de la radio dans la rue de la Verrière, près de la salle Seita à la Friche, Belle de Mai. Et c'est un programme chargé. Hein. On trouve le programme, il y en a quelques-uns à Radio Diwa si vous voulez passer. Voilà, ça commence à 14h le samedi. Et alors, il y a plusieurs scènes, plusieurs un jardin, une salle, studio, des happenings avec la participation exceptionnelle et généreuse de la brigade d'intervention festive, Bif en déambulation sur le festival par exemple, et de Karim de Bunker édition dans le rôle de maître de cérémonie pour les concerts diffusés ce jour-là. Il y a plusieurs associations qui participent vraiment. Alors bon, voilà, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Marseille à ce moment-là, et ben voilà, c'est super chouette.
Thank you. est là avec coucou, moumou, chouchou, nounou et zouzou. Et voilà, et ben, on va parler de la ZAD et les luttes qui convergent. Du coup, on laisse la parole à Zouzou pour nous parler un peu de l'historique de la ZAD, c'est quoi et...
Alors du coup, on va vous parler de cette lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui dure depuis 40 ans et qui aujourd'hui réunit une large diversité de composantes dans cette lutte. Et du coup, voilà, on avait envie de pouvoir aujourd'hui partager un peu ce qui se vit là-bas dans le cadre de cette lutte d'un territoire contre son aménagement. Alors du coup, un peu pour introduire rapidement le contexte, on est un peu dans une situation où il y a un large désengagement de l'État dans les collectivités territoriales et la mise en compétition des territoires entre eux et au sein de ces territoires, en particulier la compétition entre les différentes villes. Donc on peut observer aujourd'hui une politique de métropolisation de ces territoires avec des objectifs d'atteindre des poids économiques et démographiques suffisants pour être en capacité d'attirer des investisseurs et du coup tirer son épingle du jeu dans la bataille économique que se livrent ces territoires. Du coup, du côté de Nantes, ça se traduit par le projet de Nantes-Saint-Nazaire Métropole. Donc il y a un projet d'une métropole, de la métropole Grand Ouest, dont les édiles locaux auraient envie d'avoir capable de jouer dans la cour des grandes villes européennes, voire mondiales. Du coup, c'est l'aéroport, il s'inscrit dans cette logique, de compétition territoriale, de la même manière que les politiques d'innovation s'inscrivent dans ces politiques, que les rénovations urbaines s'inscrivent dans ces politiques, ou encore les politiques culturelles. Ce sont différents pans de la politique de métropolisation. Et on peut imaginer en fait que la métropole Nantes-Saint-Nazaire, c'est à terme l'urbanisation de plus de 20 000 hectares de terrain et qui s'accompagne en fait d'une mise en place d'infrastructures de transport qui vont permettre de soutenir un peu ce projet de métropole, d'augmenter les flux, de renforcer ce qu'ils appellent l'effet réseau pour pouvoir être un territoire attractif, capable d'attirer les investisseurs, capable de créer de la plus-value et de renforcer d'une certaine manière l'expansion capitaliste dans tous les aspects de nos vies en fait. Que ce soit l'aménagement du territoire, le contrôle des individus ou même à l'heure actuelle tout ce qui est les politiques de développement durable qui s'inscrivent dans cette même logique d'expansion capitaliste. Du coup, cette lutte contre l'aéroport, c'est pas juste une lutte contre un aménagement spécifique, c'est vraiment la lutte contre le monde qui nous entoure et c'est ce que ça représente pour nous.
Ok. Et comment ça fait, en fait, on demande à Coucou. Coucou, comment ça fait qu'en fait, ici à Glanage, vous avez accueilli ce projet et cette lutte, plutôt que ce projet. Et voilà. C'est comment ici, c'est quoi ici en fait?
C'est quoi ici? En fait, on est un groupe bon, qu'on pourrait appeler un collectif un petit peu, un groupe de gens qui habitons sur ce territoire, qui avons des activités sur ce territoire. Et en fait, à travers ces activités, on essaye d'avoir une approche, de dire un petit peu ce qu'on pense de ce territoire. Et sur plusieurs années, en fait, on a mis en place cet espace un peu de à la fois festif parce qu'on a envie de se marrer, mais aussi à la fois avec une idée politique derrière. Et l'année dernière, on a fait un truc qu'on a organisé autour de la problématique de l'enfermement carcéral. Et du coup, cette année, dans un truc un peu stratégique, je pense, on s'est dit qu'on pouvait se positionner sur une idée d'aménagement du territoire. Et vu le contexte de l'aménagement de cet aéroport, ce projet d'aéroport sur la commune de Nantes, on s'est dit que c'était une bonne idée de créer cet événement festif avec un soutien. Et voilà, c'est un peu l'histoire de cette année, quoi.
Ok. Et l'histoire du lieu, comme ça, c'est longue.
En fait, je pense qu'on est... On est un groupe un petit peu qui a plusieurs composantes, mais moi je fais partie d'une maison collective où on a des activités un petit peu agricoles et je pense qu'on a une grande volonté en fait d'exister au-dessus de nos simples activités qui tournent autour de l'économie, de l'autogestion, de choses comme ça, et qu'à un moment donné on s'est dit il faut qu'on se positionne aussi sur des problématiques de notre territoire, mais aussi aussi des trucs qui dépassent notre simple territoire.
Et le soutien que vous faites à la ZAD, c'est soutien moral pour la cause? Vous êtes allé déjà là-bas?
Le soutien de la ZAD, je pense qu'il s'est, il s'est décidé en partie pour cette histoire du fait qu'on on a participé sur plusieurs événements qu'il y a eu sur place, de manifestations en tant que groupe un petit peu du quart sud-est de la France. Et du coup, on se disait que c'était bien aussi de soutenir des luttes auxquelles on était présent et où on avait une bonne appréhension en fait de la problématique.
Ok, on peut mettre une petite chanson et après on revient avec les autres arguments à traiter. Vous êtes un cœur sur Radio Glandose et on est avec les gens de la ZAD et des autres aussi. Et alors, la ZAD, on peut parler un peu des acteurs, c'est qui fait partie de ce grand collectif et...
Du coup, le projet d'aéroport date des années 70. Depuis, il est passé par plein d'argumentations différentes. Il a été pensé avec le projet du Concorde, qui une fois qu'il est tombé à l'eau, il y a eu beaucoup d'autres argumentations. Actuellement, ce serait plus des questions de sécurité par rapport aux avions qui décollent trop près de la ville de Nantes ou l'augmentation potentielle à venir dans les années du nombre de passagers. Et donc face à ce projet, il y a une coordination qui s'est montée d'opposants à la construction, donc ça va être des élus des différentes villes autour, des associations, des partis politiques qui peuvent aller de Europe Écologie au Modem ou d'autres. Donc il y a l'ADK qui est l'association des exploitants concernés par l'aéroport qui a été montée en 70, donc c'est vraiment l'organisation historique de cette lutte qui aujourd'hui est plutôt sur un fonctionnement assez corporatif et de défense des exploitants agricoles. Donc certains qui sont opposés au projet d'aéroport vraiment, d'autres qui essayent un peu de tirer le mieux qu'ils peuvent de ce projet, en fait, de négocier les ventes de leurs terres au mieux pour eux. On a également la CIPA, donc la CIPA c'est l'association des citoyens impactés par le projet d'aéroport, qui elle a été montée plutôt dans les années 2000 avec la reprise du projet, qui est plutôt une association montée par les habitants des villages alentours de Notre-Dame-des-Landes. Elle regroupe environ 3000 personnes, mais c'est un fonctionnement très hiérarchique en fait, pyramidal on va dire, avec une dizaine de personnes qui sont un peu plus à la tête de cette association-là. C'est une association plutôt légaliste qui a comme moyen d'action principalement des recours juridiques, donc des demandes auprès de la Cour européenne, un travail autour de... Parce que cet aéroport donc, a reçu un label d'utilité publique, donc il travaille pas mal autour de cette notion-là aussi, d'essayer de démonter cette appellation d'utilité publique. Il y a aussi également eu une grève de la faim qui a été faite au mois de mai par deux agriculteurs, donc pendant 28 jours, qui a amené un pseudo moratoire sur l'arrêt des expropriations jusqu'à la fin de tous les recours juridiques en cours. Mais c'est un peu du pipeau, quoi, après, bon, comme souvent. On a également la CDPA. Donc la CDPA, c'est le collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport, qui, eux, ont commandé une enquête à un cabinet privé pour plutôt sur des aspects économiques, pour un peu démonter les arguments du coût et d'impact économique sur la région. Il y a pas mal d'autres collectifs, on va dire, qui sont plus ou moins organisés. Il y a également un collectif des pilotes de l'air qui sont contre le projet d'aéroport, ce qui est assez intéressant, qui démonte les arguments de dangerosité dans l'atterrissage des avions. C'est assez emblématique, je trouve, que des pilotes d'avion puissent s'opposer à une construction. Après, on a aussi les habitants qui résistent. Alors eux, c'est plutôt des locataires qui sont vraiment sur la ZAD, donc la zone à défendre, qui habitent sur le territoire même, qui sont dans une certaine précarité parce qu'ils ont des baux de location qui sont précaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être expulsés dans les 2 mois, du jour au lendemain, plus ou moins. Il y en a certains qui ont décidé d'être squatteurs de leur propre maison. Ça veut dire que depuis plusieurs mois, ils ne payent plus leur loyer. Ou alors, ils sont arrivés en fin de bail et ils ne sont pas partis. Il y a le premier procès d'expulsion de ces locataires, il va avoir lieu le 28 août. Donc c'est vraiment un peu symbolique. Ça amorce une nouvelle phase de la lutte avec ces possibles expulsions de locataires. C'est un regroupement d'habitants qui est vraiment horizontal, avec lequel il y a des solidarités, des amitiés assez fortes qui se tissent avec les occupants squatteurs de la ZAD. Il y a de l'entraide, de la rencontre, de l'échange qui enrichissent vraiment cette lutte.
Tu peux répéter pour quand c'est prévu
le procès?
Ils sont expulsables, le procès, oui.
En fait, la plupart sont encore, ont encore des bails de location. Mais il y en a un qui passe en procès le 28 août pour expulsion, parce qu'il ne paye plus son loyer depuis un petit moment maintenant. Et ça va certainement donner un peu le ton pour toutes les autres maisons, en fait. On attend un peu ça pour voir comment envisager la suite. Ouais, c'est beaucoup de familles, en fait, avec des enfants, des personnes âgées aussi qui sont là depuis 70 ans. Enfin, ils n'ont jamais quitter ces maisons-là. Au niveau affectif, c'est vraiment fort, on va dire. Puis des enfants qui vivent dans ce contexte-là depuis assez longtemps, enfin, il y a quelque chose d'assez assez dur à vivre à ce niveau-là. Et du coup, ces habitants qui résistent, ils sont à l'origine de l'appel à occupation de la ZAD en 2008. C'est eux qui avaient lancé le premier texte pour dire aux gens extérieurs qu'il y avait des maisons libres et que ça serait intéressant de venir les occuper pour lutter. Cet appel à occupation, il est toujours d'actualité, il a été réactualisé et il est relancé régulièrement. Donc voilà, il y a de la place et il y a besoin de monde. Après, au niveau des autres acteurs, il y a aussi le comité nantais. Donc lui, c'est un regroupement de gens qui sont assez proches de la ZAD, qui sont soit des anciens habitants, soit des gens qui passent régulièrement. Ils sont plutôt en charge de... Ils s'occupent pas mal de tout ce qui est anti-répression avec les caisses de soutien, l'information. Ils font aussi le lien avec les Nantais, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on sent que les Nantais se sentent pas forcément concernés ou peut-être que pour eux, l'argument d'éloigner l'aéroport actuel du centre-ville, c'en est un bon. Je sais pas, il y a certainement plein de raisons. Mais le lien avec les habitants de Nantes n'est pas toujours facile. Il n'y a pas énormément d'échanges de communication. Du coup, eux, ils ont un peu ce rôle-là avec... des infos, des soirées de soutien, etc. Et voilà, et puis dans les autres acteurs, donc il y a les occupants de la ZAD, les squatteurs. Les premières occupations ont eu lieu en 2007. Et ça a été surtout... Le gros de l'occupation a commencé en 2009 avec un camp Action Climat, avec 3 ou 4 lieux. Puis ça augmente, maintenant on est peut-être une trentaine de lieux qui luttent par une occupation et par diverses actions dont on va pouvoir parler maintenant.
Des groupes qui animent cette ZAD, et du coup on voulait continuer après cette petite pause musicale avec les actions et qu'est-ce que ça passe en fait.
Alors du coup là pour finir un peu du coup avec nous les occupants, et du coup le fait d'avoir le statut d'occupant de la zone et d'être du coup présent sur le terrain, ça nous permet d'avoir un peu de réactivité quand il se passe des choses sur la zone, comme une intervention de géomètre, d'huissier ou peu importe. Donc après, nous, comment on s'organise, c'est que c'est plus essentiellement par affinité. C'est qu'on fait un peu des réunions pour se coordonner quand il faut, mais c'est surtout des groupes de gens qui ont un peu d'affinité sur leur organisation, soit politique ou d'action, qui se réunissent et décident d'intervenir quand il y a besoin. Après, on se fait passer les infos. Et du coup, ça a permis que pas mal d'interventions, comme des huissiers ou des géomètres qui sont passés faire soit des relevés, soit donner des papiers. Il y en a beaucoup qui sont partis sans leur matos ou sans leurs pneus ou sur des panneuses ou qui ont été bloqués. Donc ça a permis de pas mal leur mettre des bâtons dans les roues ou qui viennent un peu moins sereinement sur les lieux. Après, il y a eu vraiment une volonté que les acteurs ou les collaborateurs du projet, c'est-à-dire plein d'entreprises qui finalement sont venues travailler sur le terrain, comme Fondasol qui était chargé de faire des forages par exemple, que ces entreprises-là soient pas sereines à venir sur le terrain, c'est-à-dire qu'elles soient même attaquées préventivement. C'est-à-dire que si on avait appris qu'elles allaient intervenir, il y a une entreprise comme Fondasol donc, qui a subi un gros sabotage à une journée d'avant un forage qu'il devait faire, qui était encadré par beaucoup de flics. Et du coup, ça a permis qu'ils se retirent carrément, qu'ils ne viennent plus. Et entre autres, il y a eu vraiment une composante qui a été très importante, ça a été Biotop. Parce que dans le cadre du coup des nouvelles normes européennes et du projet de qualité environnementale, il y a des relevés biologiques qui ont dû être effectués sur la zone, donc par l'entreprise Biotop. Il s'est passé qu'au début, ils venaient faire des notes sur des animaux, des insectes. Donc il y a des gens qui les ont poliment demandé ce qu'ils faisaient là, en leur enjoignant de partir, en leur expliquant aussi pourquoi ce qu'ils faisaient c'était de l'hypocrisie d'aller faire semblant de participer à quelque chose d'écologique sur une zone qui allait être détruite. Ils n'ont pas forcément accepté de partir, donc peu après, il y a des gens qui leur ont sommé un peu plus, moins poliment, on va dire, de partir, donc ils partaient, donc ils sont revenus ensuite, accompagnés par des vigiles sécurité ou Securitas. Puis ensuite, ils ont été sommés de partir aussi par plus de gens, ils sont revenus avec plus de gendarmes, puis ils ont été sommés de partir aussi, ils sont revenus à la fin avec 50 gendarmes mobiles, et puis leur travail est devenu très très compliqué. Il y a même leur siège. À Nantes, enfin un de leurs sièges, leur antenne, qui a été attaqué plusieurs fois, vitres cassées, serrures collées, une fois où il y a des gens qui sont venus à l'intérieur pour leur dire que leur travail c'était de la merde. Il y a même eu des actions de soutien sur leur siège social à Montpellier qui ont été faites avec les serrures collées, des tags qui ont été faites sur la maison du patron, le siège à Nancy qui a été aussi dégradé. Donc dans le communiqué était vraiment de dire tous les prochains, à tous ceux qui veulent venir sur la zone, ça va pas se passer comme ça en fait. Vous pouvez pas collaborer à un projet aussi dégueulasse sans qu'il se passe rien. Et donc notre présence sur la zone, elle a permis que ça se passe en fait, qu'ils puissent pas venir aussi facilement ou que ça les oblige à déployer des forces de police vraiment démesurées, voire ridicules. Donc du coup, après, ça a été tout pour ce qui a vraiment suscité peu de divergences avec les autres composants de la lutte. C'est-à-dire qu'en général, ça a été plutôt bien accueilli, quoi. Ça va, enfin, c'est resté un peu entre nous et ça n'a pas fait trop de remous. Ça a plutôt bien marché. Par contre, après, ça n'a pas toujours été le cas sur les luttes sur le terrain. On s'est quand même souvent heurté à des divergences avec les autres composants de la lutte, comme la CIPA, par exemple, qui ont une vision beaucoup plus légaliste et qui, du coup, pour qui enfreindre la loi ? C'est-à-dire sur des dégradations ou faire obstacle aux forces de police ou aux juges qui viennent. C'est pas passé comme ça. Donc quand le juge d'expropriation est venu à maintes reprises pour évaluer les terres des propriétaires, déjà pas tous les propriétaires ont été d'accord. Donc la première fois c'est pas super bien passé parce qu'on n'avait pas trop demandé l'avis, donc il y en a que ça a fait un peu des remous. Du coup il y a beaucoup de propriétaires qui nous ont plutôt dit qu'ils voudraient pas de nous. Sur la prochaine fois que le juge passait, autant d'autres ont dit qu'ils voudraient bien qu'on soit là, ce qui a aussi créé des divergences entre les propriétaires. Certains propriétaires, du coup, on était avec eux toute la journée pour attendre le juge et les flics, et du coup, le juge et les flics ne passaient pas, ce qui les a mis un peu, les a vachement embêtés, parce que du coup, ça leur faisait perdre une journée pour rien. Donc, du coup, c'était aussi une manière de mettre à l'écart ceux qui voulaient bien de notre soutien. Il y a eu d'autres actions aussi, comme qui ont été faites à l'extérieur par des groupes. Comme l'attaque de la caravane du PS, donc c'est les jeunes du PS qui venaient faire leur info tour à Nantes. Du coup, comme le projet de l'aéroport était porté par la mairie du Parti Socialiste, la caravane a été attaquée, donc sans violence sur les gens, mais dégradée, fenêtres cassées. Donc ça, systématiquement, ce genre d'action a été condamné parce que c'était violent, entre guillemets, par les composantes plus citoyennistes de la lutte. Donc ça a été des moments pas faciles, parce qu'après il a fallu s'expliquer à chaque fois pour pouvoir essayer de continuer de faire des choses ensemble. Du coup, on n'avait pas du tout la même vision de ce qui est violent ou ne l'est pas, de ce qui est pourquoi on devrait enfreindre les barrières légales ou on ne devrait pas les enfreindre. Donc ça a été pas mal de sujets de divergence sur lesquels il a fallu passer, qui ne sont d'ailleurs toujours pas tous passés, pour qu'on puisse faire des choses ensemble aussi.
J'imagine que cette histoire des citoyens et des gens légalistes, c'est un problème qui revient tout le temps en fait aussi. C'est pas qu'à la ZAD, mais il y a plein de... dans les actions locales, c'est toujours ça, on se trouve souvent face à ce problème.
Bah, c'est sûr qu'il y a des cultures politiques qui sont différentes, des rapports... aux institutions qui sont différents, des rapports aux médias, des rapports à la violence, comme ça vient d'être un peu précisé. Et quand même, un des enjeux qu'on voit, nous, là-dedans, c'est quand même de pouvoir un minimum dépasser ces barrières, tout en étant conscient un peu des lignes de rupture qui peut exister entre ces différentes composantes. Et il y a quand même des choses, des espaces communs qui ont été créés, qui étaient assez chouettes. Du coup, on se proposait un peu de revenir rapidement là-dessus, quoi. Il y a eu par exemple la manif d'occupation du Sabot, donc qui avait eu lieu le 7 mai, où l'idée c'est d'ouvrir une ferme collective qui produirait des légumes pour, entre guillemets, la lutte, et donc qui a été organisée par les occupants entre autres, et aussi le réseau Réclame le Fils, mais qui a été largement suivie par toutes les composantes de la lutte, et qui a donné lieu à vraiment un moment collectif, où en fait on a dépassé un peu la barrière du légal ensemble, même si ça restait dans des formes très sympathiques on pourrait dire, mais où on a réussi à aussi oublier les divergences de fond pour agir ensemble. Et ça, c'était vraiment un moment fort et un moment qui a permis le rapprochement des différentes composantes et qui a aussi donné un peu un sentiment de confiance entre ces différentes composantes. Il y a eu d'autres choses qui ont été organisées, comme il y avait une manif d'occupation à l'aéroport actuel de Nantes, qui était l'idée qu'ils veulent expulser la ZAD, allant expulser les expulseurs en gros, et qui était aussi organisé de manière assez chouette entre les différentes composantes de la hutte, et qui a donné lieu à une répression assez massive de cette manifestation, qui a été très violente. Il y a eu des gens qui ont été gravement blessés, voire avec des graves séquelles encore maintenant. Mais c'était de nouveau un moment où on était ensemble, et on essayait de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, et d'agir ensemble. Et il y a eu aussi par exemple la manif du 24 mars de cette année, qui était de nouveau un moment qui a été organisé avec des composantes anti-autoritaires, des composantes plus citoyennes, les agriculteurs, et qui ont été des processus assez difficiles à mener, avec des débats de fond qui revenaient très souvent sur des histoires de casseurs, des histoires de violence, des choses comme ça, mais qui a finalement été une belle réussite, et on a montré un front unitaire qui était vraiment intéressant. On peut encore citer par exemple l'exemple des forages de juin 2011, où il y avait vraiment sur le terrain une complémentarité des tactiques, c'est-à-dire des petits vieux qui se couchent devant les bulldozers, alors que d'autres dressaient des barricades et lançaient des cailloux sur les flics. Et il y a eu vraiment des espaces où l'hypothèse de la complémentarité des modes d'action a fonctionné, ce qui n'a pas du tout toujours été le cas. Et c'est un enjeu qu'on trouve important, parce que c'est quand ces différentes composantes-là agissent ensemble qu'on peut vraiment faire peur un peu au pouvoir, aux autorités, aux porteurs du projet. Et c'est aussi pour ça qu'on assiste de plus en plus à des épisodes répressifs, donc des gardes à vue, divers procès qui tombent, on va en parler juste après, qui s'accompagnent souvent de campagnes de presse qui vont dans le sens aussi de stigmatiser les bonnes composantes de la lutte contre les mauvaises, ou de stigmatiser des gens qui seraient violents contre des bons citoyens qui agiraient dans les cadres de la loi. Et clairement, ce front uni, qui est loin d'être systématique, il est quand même super important, et je pense que c'est pas pour rien qu'on assiste à ces campagnes de presse qui ont pour objectif d'essayer de casser ce front qui est parfois uni pour faire des choses chouettes ensemble, quoi. Du coup, on va parler maintenant un petit peu plus de la répression sur le terrain. Je repasse le micro à Zouzou.
Ah oui, du coup, comme on a un peu parlé tout à l'heure, le fait de multiplier les actions sur le terrain et d'arriver à en faire d'autres, où on voit qu'on arrive à faire un peu d'unité. Disons que la présence policière a vraiment fortement augmenté depuis plus d'un an. Pas mal à l'issue de la manifestation de juillet dernier à l'aéroport, où ça a été particulièrement violent, où ils ont été
après.
Et ensuite, ça n'a fait qu'au.
Eh bien, la répression sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, on en parlera, ou on écoutera la suite de cette émission. Une prochaine fois, une émission d'une heure dont on vient d'écouter la première demi-heure, émission enregistrée au festival Rockin' Gats à Glandage avec ses studios en plein air. On sent bien le plein air là, voilà. C'est encore l'été, on en profite, on respire, on en profite pour faire une spéciale dédicace copinage au Loco Loco où je viens de passer là pendant que vous écoutiez cette émission différée en direct. Je viens de passer là et voilà, et on a entendu sur 107.5 que ça passait à la radio. Voilà, aucun problème technique a priori pour l'instant, mais ça peut toujours venir, hein, qu'on se rassure. Là par exemple, ça se trouve, je parle tout seul et vous n'entendez rien, je me suis trompé de bouton, ça arrive aussi. Voilà, on écoutera la deuxième demi-heure de cette émission sur Notre-Dame-des-Landes une autre fois, pourquoi pas la semaine prochaine ou la semaine d'avant. Bah non, c'est cette fois la semaine d'avant. Non, là c'est sûr. C'est sûr qu'on l'écoutera pas. Et petit retour sur Alexandre Marius Jacob. Souvenez-vous, il y a de cela deux semaines environ, au Loco Loco justement, et on n'a pas fini d'en parler, a eu lieu une lecture théâtrale à propos d'Alexandre Marius Jacob, dont on voulait ici reprendre la fin de la déclaration qui aurait été faite à la cour d'assises de la Somme à Amiens le 10 mars 1905. Pour ma part, je savais pertinemment que ma conduite ne pouvait avoir pour moi d'autre issue que le bagne ou l'échafaud. Vous devez voir que ce n'est pas ce qui m'a empêché d'agir. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que de me faire l'artisan de la fortune d'un maître. En termes plus crus, sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que voler. Certes, moi aussi je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches voleurs du bien des pauvres. Moi aussi, je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Pour détruire un effet, il faut au préalable en détruire la cause. Détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est pas parce qu'il y a ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre. Que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns, la lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leur joie et leur peine, leurs travaux et leurs richesses, lorsque tout appartiendra à tous. Ce texte avait été lu lors de la lecture théâtrale qui a aussi eu lieu à Bellegarde-en-Divois et qui était qui était chouette. Si jamais ce comédien et cette comédienne reviennent amatrices, hein, reviennent dans le coin, ne loupez pas lecture théâtrale sur Alexandre Marius Jacob, 34777, c'est son numéro d'écrou, anarchiste, cambrioleur et bagnard. Mais ce qui n'a pas été lu, c'est ces informations qu'il et elle nous apportaient à propos du bagne en France. C'est l'ordonnance royale du 27 septembre 1748 qui institue le bagne en France. En 1791, la Guyane est choisie pour installer une colonie pénitentiaire. La loi impériale du 30 mai 1854 créent officiellement les bagnes coloniaux. Mais les bagnes de Guyane sont ouverts dès 1852, remplaçant progressivement les bagnes portuaires de Rochefort, Toulon et Brest. Entre 1869 et 1887, les bagnes de Guyane sont fermées à cause de la trop grande mortalité qui s'y développe. C'est alors la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie, ouverte en 1867, qui devient le principal lieu de détention hors métropole. Elle fermera en 1897 après avoir reçu les déportés communards. Et oui, tous ces déportés communards, on connaît bien, on parle beaucoup de Louise Michel, qui a pu, qui a pu être institutrice en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle y avait été déportée et qu'elle avait eu la vie sauve aussi. Il y a eu beaucoup de déportés suite à la commune. Il y a aussi eu, on se rappelle, 20 000 exécutions arbitraires. après 2 mois de révolution. Et beaucoup de ces communards ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, parfois définitivement. L'ordre social bourgeois, un instant mis à mal par la Commune de Paris et la poussée des classes dangereuses, vont entraîner un durcissement pénal. Ainsi est créée la relégation par la loi du 27 mai 1885, instaurant l'exclusion définitive du territoire métropolitain de pauvres, marginaux, petits délinquants, multirécidivistes, en les envoyant dans les bagnes coloniaux où ils rejoignent les condamnés aux travaux forcés. D'autre part, la peine de doublage imposait la résidence forcée en Guyane pour un temps équivalent à celui de leur condamnation aux condamnés ayant déjà effectué leur peine. Cela s'ils avaient subi une condamnation inférieure à 8 ans. Au-delà, la résidence en Guyane devenait obligatoire une fois la peine purgée. Les bagnes de Guyane rouvrent en 1887, les derniers forçats n'en partiront qu'en 1953. De 1852 à 1953, environ 52 000 transportés et 10 000 relégués y connaîtront le pire. À propos des anarchistes au bagne, considérés comme particulièrement dangereux et qui plus est anarchistes, Alexandre Marius Jacob est interné aux îles du Salut. Elles sont composées de l'île du Diable, de l'île Royale et de l'île Saint-Joseph. Elles furent le lieu de détention de tous les anarchistes condamnés. Illégalistes, partisans de la propagande par le fait, ou partisans de la reprise individuelle, mais aussi antimilitaristes, insoumis, déserteurs, 60% des anarchistes condamnés au bagne entre 1887 et 1914 y meurent. 6 sur 10 déportés meurent. Leur espérance de vie moyenne est de 8 ans, soit 3 ans de plus que celle des autres bagnards, probablement à cause de l'incarcération aux îles du Salut, dont le climat est plus sain que sur le continent où sont situés les autres lieux d'enfermement des bagnards dits de droit commun. La solidarité de groupe renforcée par l'oppression spécifique, la surveillance très étroite et la répression sévère dont les anarchistes sont l'objet peut aussi expliquer ce fait. Les 21 et 22 octobre 1884, la révolte des anarchistes au bagne sur l'île Saint-Joseph causera la mort de 4 matons et 12 forçats, dont 10 anarchistes.
Étayer mes théories, terroriste de la pensée qui enseigne à théorie ses théories. M'observe quand je vais au lit, triste mélodie. Un cœur en errance qui crie au secours quand écrase. On vers poison, on terrasse, on les crasse les talitas, les traces, les talilias. Puis putain de vide, chute, je t'invite dans ma tête. En lutte plein de rites, petite pute, bien vite. Cette chute m'intrigue, le mince vide, tout suit bien. Ce qu'on leur a instruit, induit en erreur. Au fond d'un puits enterré, une lutte d'erreur. Un froid terrible, une putain de pluie à l'intérieur. Seul, au milieu de tout, c'est pantin, lanterne noir qui est tout sous le poids des pantoufles. J'ai peur quand je vois ces fantômes qui m'entourent. La nuit, je n'ai pas d'équipe, seul face à moi-même. M'amène, je te chine que je m'amène, mon état j'en ramène. La nuit, je n'ai pas d'équipe, seul face à moi-même. M'amène, je te chine, je m'amène, mon état j'en ramène. La nuit, je n'ai pas d'équipe, seul face à moi-même. M'amène, je te chine que je m'amène, mon état j'en ramène. La nuit, je n'ai pas d'équipe, seul face à moi-même. M'amène, je te chine, je m'amène, mon état j'en ramène. Fais-moi de froid, ma croix abstraite.
Pour en finir avec la psychiatrie, ouais. Quelque chose dont on vous reparlera bien sûr et dont vous entendrez parler car ce sera à Radio Diwa bien sûr sur une autre radio copine, Radio Méga de Valence et aussi sur les marchés à Di et pourquoi pas ailleurs et aussi quelque part à Crest et aussi au labo à Valence je ne sais plus quel jour d'octobre, c'est dit. Et alors encore, puisque j'ai dit qu'on n'avait pas fini de parler du Loco Loco, une projection d'un documentaire a priori Sainte-Anne hôpital psychiatrique. Et oui, au Loco Loco, ce serait possible, pas mal. Et on, voilà, regardez les murs de Di, puisque tant qu'il y a des affiches, collez-en si vous n'en voyez plus, si surtout vous n'y voyez plus d'affiches sur les murs de Di, alors là, ça veut écrivez n'importe quoi sur un bout de papier et collez-le, parce qu'il faut qu'il y ait des... peuple muet, mur blanc, peuple muet. Élevage de 1000 vaches. Un cauchemar à empêcher. Dans la Somme, un projet d'élevage laitier où seraient confinés en bâtiment 1000 vaches et 750 veaux et génisses soulève la vive opposition des habitants des communes concernées et de plusieurs associations, dont L214. C'est une nouvelle qui nous est fournie par L214 Mag numéro 6. En élevage standard, les conditions de vie des vaches laitières et de leurs veaux sont déjà mauvaises. Ouais, c'est assez truc. Allez, viens faire, allez, pond un veau, là, hop, allez, on l'enlève, hop, on suce le lait à sa place. Lui, on lui donne de la daube en poudre, hein, parce que ça, on en a. Alors là, on a de la daube en poudre, mais on en a, mais on a gavé, même si, bon. Bon, voilà, et alors, tu vois ta maman? Non, mais qu'est-ce que c'est ça, attends voir sa maman? Non, mais, le temps de l'accouchement, ça suffit, quoi, ça suffit. Après, hop, coupe le cordon, hein. De toute façon, on va te bouffer. Alors, à quoi ça sert que tu vois ta maman, hein? À quoi ça sert qu'elle te lèche, là, qu'elle te caresse, qu'elle t'apprenne à meugler, qu'elle t'apprenne toutes les choses
qu'elle peut t'apprendre. De toute façon, tout ce que tu as à savoir, c'est à la fermer, à rester tranquille, à bouffer, à chier et à grossir, dit-on au petit veau. Je reprends la lecture de l'article. Les systèmes d'exploitation et la sélection génétique favorisent la production de lait au détriment de la santé des vaches laitières. Mamites, boiteries, pathologies respiratoires ou digestives, difficultés de vêlage, infections bactériennes, affections articulaires, maigreur extrême. Voilà, bienvenue, hein, c'est super. Mais on a des bons antibiotiques quand même, hein, d'ailleurs. Ouais, bah ouais, bah ouais. En outre, la production de lait implique de faire naître chaque année un veau. Bah, c'est ce petit veau là dont je vous parlais là. Bah, ce petit veau là, bah, et bah ouais, allez, coupez cabèche. Qui sera rapidement enlevé à sa mère. Bah, une séparation qui provoque la détresse de l'un et de l'autre. Les génisses sont écornées. Pratique reconnue comme une source aiguë de douleur. Ouais, allez, écornage, voilà. Ah voilà. Pardon, ça me fait monter là, c'est un truc toutes ces ouais. Non, mais on fait ça quoi, on fait ça. Ouais, on fait ça. Voilà. Un mal-être reconnu. Je reprends la lecture de l'article. Hein, je fais un commentaire sur moi-même, bien sûr. L'autorité européenne de la sécurité des aliments, EFSA, European Food Security Authority, confirme de nombreux problèmes de bien-être animal dans la production de lait. Alors, nous citons la sélection génétique, ce sont des administratifs européens qui parlent, la sélection génétique exercée sur le long terme en vue d'augmenter la production de lait, les systèmes de stabulation et les équipements ainsi que les pratiques d'exploitation et de manipulation constituent des facteurs majeurs qui affectent la santé des vaches laitières et d'autres aspects liés à leur bien-être. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce que ces administratifs européens remettent en cause l'enfermement. Non, hein, non, mais on a demandé à Alexandre Manier Marie Jacob, non mais il faut le laisser enfermer là. Attends, et puis tous les autres aussi, et puis tous les droits communs là, on les laisse enfermer, et puis les prisons c'est pareil là. Allez, t'es en prison quoi. Au moins comme ça on est protégé. Moi je me sens bien. Là je me sens bien parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais ouais, parce que tous ces gens en prison ils seraient dehors. Mais alors là moi j'aurais les boules. Ah, carrément. Alors que là, ouf, c'est l'été, on respire, tout va bien. Bon, mais quand même, bah ouais, comme il y a des associations qui critiquent un peu la prison, et puis qui disent ah, ils sont en mauvaise santé les prisonniers, bah, forcément, on leur prive de liberté. Et la liberté, on prive de liberté, bah tu tombes malade. Non, bah, tu, moi ça me paraît normal. Bah, voilà. Mais non, c'est un peu. Peut-être faudrait une deuxième brosse à dents par an, parce que quand même. Non, peut-être qu'il faudrait juste ouvrir la porte. Hein, et puis voir ce qu'on fait ensemble, s'asseoir, discuter, se mettre en rond par exemple, ou en carré, alors là vraiment, mais en tout cas, ou par deux, ou par cinq, comme on veut, puis discuter un petit peu de ce qu'on fait avec ces horreurs que sont la prison, ces horreurs que sont l'élevage. Et qu'on abolisse tout ça, hein, bien sûr. L'évaluation récente de 130 fermes françaises avec le protocole Welfare Quality montre une conduite d'élevage globalement génératrice de souffrance pour les animaux. Ouais, ouais. Et souligne que les comportements sociaux peuvent difficilement s'y exprimer. Ah ouais, ah ouais, ah tiens, ça c'est, c'est marrant. Les comportements sociaux, par exemple, c'est se mettre ensemble. Voilà, je pense pour des ruminants, se mettre ensemble, hein, comme ça, et puis voyager dans la prairie. Voilà. Ah bah ça, c'est assez difficile en stabulation. Ah, c'est plutôt pas facile en fait. C'est même carrément, bon, on pourrait leur donner des produits qui les font rêver, par exemple. Mais la réalisation de ça, non, c'est. Alors oui, les comportements sociaux, ce serait ça, quoi. Un peu se promener, là, aller draguer sous les arbres, aller jouer. On se rend pas compte, mais les animaux non humains en liberté passent beaucoup de temps à jouer. Hein, donc à voir en ce moment, les écureuils, par exemple. Tenez, allez, on a encore vu là il y a deux jours sur un grand arbre. Qu'est-ce qu'ils font? Alors il est là comme ça, quatre pattes, pof pof, il fait des pas chassés d'un côté, des pas chassés de l'autre. Non mais dis-moi pas qu'il cherche de la nourriture. Et dis-moi pas qu'il travaille cet écureuil là. Hein? Il travaille pas là. Non, il joue. Bah voilà. Et ben ça, allez, hop, en cage, fini de jouer. Non mais, c'est difficile d'exprimer les comportements. Je reprends la lecture de l'article.
la recommandation du Conseil de l'Europe concernant les bovins, t'es toujours pouet-pouet là, souligne que les animaux devraient avoir l'opportunité de sortir aussi souvent que possible et en été de préférence chaque jour. Ouais, ils disent, en fait, ce serait bien si vous laissiez la porte ouverte là. Et puis, ciao, bye. Ben non, mais c'est un peu un problème ça, parce que si on laisse sortir, on n'est pas sûr qu'il rentre. Non, mais t'imagines là. Imagine, on dit allez, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, en fait, faut, mais c'est qu'il soit prisonnier, c'est robot. Parce qu'on considère quand même, pour traiter des animaux non humains comme ça, et même pour traiter des animaux humains, il faut considérer que c'est des robots, c'est pas possible autrement, qui sont insensibles. Hein. Multiplier par 1000 le mal-être reconnu comme. De façon générale, l'élevage intensif va de pair avec le gigantisme des installations et un nombre réduit de travailleurs et de travailleuses. Les problèmes de bien-être animal en production laitière sont exacerbés, tandis que l'attention portée à chaque animal ne peut être que réduite. Dans le cas de l'élevage laitier prévu dans la Somme, les animaux n'auraient aucun accès à l'extérieur. Ouais, non mais 1000 vaches, attends, t'imagines là. 1000 vaches, 750 veaux. Non mais en plus, on va les faire sortir là. Non mais attends, c'est bon. On va leur mettre des parfums, on va leur mettre la télé, puis c'est bon, merde. Puis qu'est-ce qu'on s'est chié ? Il faut du lait, hein ? Faut bien du lait pour vivre. Bah faut bien de la viande pour vivre. Bah ouais, moi je vis pas si j'ai pas de la viande, hein. Alors je m'en fous. Je m'en fous parce que moi je veux vivre avec de la viande. Non, en fait, tu sais, t'es pas obligé. Enfin, c'est toi qui choisis, quoi. Mais si tu ne veux pas manger d'animaux, tu n'es absolument pas obligé, que ce soit pour ta santé ou pour une quelconque autre raison. En fait, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, non, mais alors quand même, je veux dire, là, quand même. En fait, ouais. Enfin, ok, on peut. Bah voilà, appeler à la radio, parlez-en, et puis on essaye de trouver des solutions, quoi. Parce que c'est vrai que c'est. C'est un problème l'alimentation, enfin c'est un problème ou c'est une solution, ça dépend, c'est un plaisir aussi. Hein. Mais alors, si pour se faire plaisir, il faut faire souffrir les autres, hein, moi je comprends pas. Enfin, si en vrai je comprends, c'est très très fréquent que la souffrance des autres provoque le plaisir. Mais c'est un truc qui est pas pathologique, non, c'est pas la perversité, voilà, il me semble que ça s'appelle la perversité, c'est ça. La souffrance de l'autre est nécessaire à mon plaisir. Et bien, manger du cadavre qu'on a fait souffrir pour en faire du cadavre, outre que c'est un comportement de charognard, bon, ce qui en soi, hein, voilà, en soi, charognard, il y en a, quoi, je veux dire, voilà. Mais, là, c'est par plaisir. Je suis chaleur charognard, mais par plaisir. Mais t'attends qu'elle crève, la bête toute seule là ? Non. Il faut la tuer. Voilà, elle n'a pas le droit de vivre. De toute façon, enfin, j'ai plus le droit d'avoir plaisir que elle le droit de vivre. Mon droit au plaisir, hein, parce que moi, ça me fait monter les endorphines, tu vois, de croquis dans un steak. Eh ben, ça, c'est plus important, quoi. Mes endorphines, là, c'est plus important que le droit de la bête que je suis en train de manger de vivre. D'ailleurs, c'est bien simple. Elle l'a perdu, son droit de vivre. Et c'est bien la preuve que je suis le plus fort, et le droit, c'est la force. J'en parlais avec quelqu'un. Alors, est-ce que j'ai le droit de manger du chocolat ? Est-ce que j'ai le droit ? Ben, je sais pas, c'est quoi que t'appelles le droit ? Eh ben, par exemple, me dit-il, si moi je veux et que toi tu veux pas, faut dire que moi je suis un peu baraqué, si moi je veux et que toi tu veux pas, eh ben, j'ai pas le droit. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est le droit, c'est la force. Alors, c'est bien, c'est super de se rendre compte tout de suite de ça, que tiens, j'ai pas le droit, en fait, c'est parce qu'il y a un plus fort que moi qui me l'interdit. C'est toujours ça, hein, le droit, c'est la force. Voilà, on revient sur nos 1000 vaches, là. 1000 vaches, hélas, pas le plateau de 1000 vaches, qui ne veut pas dire qu'il y avait 1000 vaches sur le plateau, mais qui veut dire qu'il y avait 1000 sources. Hein, c'est un mot qui veut dire source. Mais là, élevage de 1000 vaches, c'est bien 1000 individus vaches et 750 de leurs petits qu'on va mettre à crever dans la Somme un projet d'élevage laitier. La décision, cependant, est en suspense. C'est au préfet de donner son aval ou son opposition au projet. Depuis janvier, il repousse sa décision
Novicène, l'association locale de lutte contre l'usine des 1000 vaches, ne baisse pas les bras, organise des actions et des débats publics et des manifestations. Elle, 214, a participé activement à la manifestation du 18 février à Abbeville. Les défenseurs des animaux y étaient nombreuses, a contribué à mobiliser la presse et a récemment obtenu le soutien de un affreux jojo, je dirais. Qui s'appelle Yann Arthus Bertrand, mais bon, qui est prêt quand même, des fois, bah voilà, à mouiller sa chemise pour certains trucs, même si il est affreux par ailleurs, bah voilà, les affreux ont aussi parfois des bons côtés, et si Yann Arthus Bertrand a un quelconque poids, mais ce n'est pas lui tout seul qui fera changer les choses. Ce projet orienterait indubitablement le modèle agricole de demain, ne le laissons pas passer, c'est nous qui avons la parole, nous qui pouvons agir. Alors écrire votre opposition à ce projet à monsieur le préfet de la région Picardie à Amiens. On trouve l'adresse sur l'annuaire de la Somme, donc vous pouvez je pense que je sais pas comment faire, mais peut-être aller à la poste, et puis à la poste il y a tous les annuaires de tous les départements, donc on peut regarder sur l'annuaire de la Somme, et puis ou sinon sur internet, on me souffle là. Mais ouais. Attends, tu vas pas aller à la poste, non? Attends, c'est hyper ringard, quoi. Puis en plus, il n'y a plus les annuaires à la poste. Non, mais tu vis où, toi? Bah ouais. Voilà. Et puis c'est aussi au quotidien. Hein. Chaque élevage, il n'y a pas un élevage qui vaut l'autre. Hein. Un élevage bio, éthique, ça n'existe pas. Ou alors, c'est en fait une sorte de maison d'accueil, de retraite, de repos, de villégiature pour des animaux qui échappent, qui ont été nés, qui ont été faits naître, je sais pas comment on dit, qui ont été produits, puisque c'est des producteurs, hein, de production de viande. Ces animaux qui ont été produits pour être tués, en fait, c'est ça, on te fait naître pour te tuer. Eh bien, parfois, échappe à cela et trouve refuge dans des endroits qui ne s'appellent pas des élevages, qui sont des lieux de vie. On pourrait dire l'importance de tout ça, c'est que bien, en fait, cette émission est bientôt finie. On a pris un peu le temps. Non, mais c'est bien en même temps.
Salaire, l'essence, le style, somme, la masse, sans maison, c'est l'absence de sens qui m'angoisse. J'ai raison parce qu'au fond, je sais rien et je l'assume comme un surin qui se déguise en plus mon sentiment. C'est les champs de bitume, le champ de la bitume, crois pas que je me sauve, j'assume. On rassemble de sale somme et j'ai le rap à cassa. Mon sentiment reste instable, c'est pas le zouk à cassa, mais calçable. C'est le son de la castagne, de la rage dans les bouteilles, t'es mal à flamme dans les bouteilles. Mon sentiment bataille entre l'oseille, le mitard et les freestyles. Ici des batailles, c'est sur scène que je t'étale. On m'a dit, tu fais la gueule, tes poils. T'as coupé chiol, ça sent la bleue quand tu parles. Au milieu de la foule, tu restes seul. Bah ouais, mes sentiments, c'est as, pétasse. Lâcher des coupes de métastases, comme mon stas, des grosses doses, critiquant la masse. Le marchand de glace, comme de famas. La basse est grasse, elle passe et trace. Sa puce c'est triste, mon sentiment d'autiste. Je deviendrai sourd sûrement à force de squatter 12 pistes. Yo, je deviendrai sourd sûrement à force de squatter 12 pistes. Mon putain de sentiment d'autiste, cool ça. Mama. Mon sentiment reste underground, c'est la mal dans les grosses boumes. Le but de crack sur le playground, c'est des one homme ou des ondes, c'est le désordre. Mon sentiment c'est le putain de désert. Mon sentiment reste underground, c'est la mal dans les grosses boumes. Le but de crack sur le playground, c'est des one homme ou des
ondes. Alors j'ai présenté Navasté, qu'on a pas mal entendu, mais j'ai pas présenté Dialectique Musique. Dialectique Musique, voilà, bon ben, ce disque Omega, je pense, qui s'appelle comme ça, enregistré et autoproduit par Dialectique Musique, partout et nulle part, dans une démarche anti-marchande, Scratch Dr. Deft. Alors, Dialectique Musique, c'est le titre de cet album, là, c'est le désert.
Je suis père à la barre, la normale qui s'en soit. Mon sentiment n'est pas si sûr. Même s'il le semble, je t'assure, c'est l'usure. Face à ces cons qui se ressentent, c'est assez méprendre pas pour qu'ils aillent spawn, c'est pas de peau. Pose ma main n'a pas le temps pour les buts qui fait bon. Mon sentiment, c'est le péplum, les pètes, le rhum. Ici, mon frère, tu deviens tox bien avant d'être un homme. C'est le show, le Truman.
Les camarades du collectif antinucléaire 84. Avignon organise du 18 au 25 août. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Des manifestations, une série de manifestations qui préconisent, qui exigent, pourrait-on dire, un arrêt immédiat du nucléaire. On en a parlé au début de l'émission. On rappelle ces dates. Avignon et environ 18 au 25 août 2012. Collectif antinucléaire 8-4. Arrêt immédiat du nucléaire. La solution la plus réaliste, d'arrêter tout de suite. Et les camarades du CAN 84 n'ont pas peur de le dire. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous pensons que aussi ils et elles nous montrent l'exemple, nous disent hey, c'est possible. C'est possible de dire arrêt immédiat du nucléaire. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, a dit normalement. Bah, c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'on en parle, on sait, mais on lit encore des trucs qui émanent du Diwa, de gens qui se réclament de l'écologie et qui trouvent que ce n'est pas réaliste d'arrêter le nucléaire. Ouais, du coup, qui trouvent que c'est réaliste de continuer. Voilà, bon, on a de. Il faut tout pour faire un monde, mais il faut faire bien attention à. D'autres infos, si vous en avez, sont les bienvenues. Il faut écrire à Radio Diwa, émission Feu de tout bois. Autre info dont on a parlé en début d'émission, Parole de Galère, samedi, dimanche 1er et dimanche, samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre, c'est à Marseille, ok. Donc spécial dédicace aux Marseillais, Marseillaises qui nous escoutent, comme on dit à Marseille. Non, n'importe quoi, qui nous écoute à Marseille, hein, c'est, faut pas croire qu'on va aller dans un truc. Voilà, de la marionnette, de la zone d'expression populaire, des contes, des débats, dettes et méchants. Dettes et méchants, que devons-nous? Qui doit payer? Voilà. De la musique, des concerts, bien sûr. Espace d'écoute, de création sonore. Restauration à prix libre, en continu, sur toute la durée du festival, grâce au soutien de l'association La Cuisine.